Bienvenue sur Mediapart. Dans cette émission, nous allons revenir sur les résultats assez spectaculaires des élections pour la Convention constitutionnelle du Chili les 15 et 16 mai derniers. Une convention qui va réécrire le texte fondamental du pays afin d'en finir, rien de moins, avec la constitution issue de la dictature de Pinochet. Alors pour cela, je reçois Franck Godichaud en direct de l'Université de Toulouse où il est professeur en histoire d'Amérique latine. Bonjour Franck.
Bonjour.
Alors, on s'était déjà parlé sur Mediapart au moment du référendum qui devait approuver le principe d'élire, de réunir cette convention constitutionnelle. Et à l'époque, vous m'aviez mis en garde sur les nombreux garde-fous qui avaient été posés par les conservateurs et par les partis traditionnels pour, en quelque sorte, se protéger un peu de toutes les attentes du mouvement social qui était hors classe politique. Et on peut dire que ces garde-fous ont été explosés par les résultats parce que la grande nouvelle, et vous allez nous expliquer en quoi c'est important, c'est que la droite, donc celle qui gouverne aujourd'hui le pays, n'aura pas de minorité de blocage dans cette assemblée.
Exactement, oui, c'est quand même une vraie surprise, un petit ou un grand même séisme politique et électoral. Ce qui s'est passé donc avec ces élections pour la convention constitutionnelle, c'est une sorte de dépassement de tous ces garde-fous qui avaient été mis en place en novembre 2019. Il faut rappeler que c'était suite à la grande révolte populaire d'octobre 2019. Finalement, c'est un effet différé de cette grande mobilisation sociale qui vient de se dérouler maintenant dans les urnes. Et les partis traditionnels, les partis parlementaires avaient essayé, disons, d'une certaine manière, de corseter ce processus constituant qui avait été un peu arraché par la pression de la rue. Mais les limites qui avaient été mises à ce processus n'ont pas été suffisantes. Les urnes ont vraiment débordé toutes ces limites-là, notamment le droit de veto qui existait, ou cette majorité des deux tiers qui devait permettre d'édicter chaque article. Donc, en gros, les partis espéraient ainsi qu'avec un tiers, ils pourraient bloquer des articles trop transformateurs, réformateurs. Et bien, ça n'a pas marché. La droite n'aura pas ce veto. Et la vieille concertation, ex-concertation, disons le centre social-libéral, n'aura pas non plus ce veto au moment d'édicter la Constitution.
Ouais, on le voit là sur le petit schéma où on voit la composition de cette assemblée ou convention constitutionnelle. On voit que la droite n'a pas ce tiers-là de minorité de blocage, le centre-gauche non plus. Et le centre-gauche est dépassé, est-ce que ça aussi c'est historique, par une gauche alternative, une gauche radicale, en partie communiste. Ça aussi, c'est quand même significatif.
Tout à fait, oui, très très significatif. Donc non seulement on a un effondrement de la droite néolibérale et conservatrice qui était alliée avec l'extrême droite dans cette élection, ils avaient fait un seul bloc, et d'autre part ce qui était le centre-gauche d'une certaine manière, ou la gauche social-libérale de gouvernement, elle a été dépassée, donc il y a un inversement des rapports de force dans l'opposition, puisqu'effectivement la liste conduite par le Front Large et le Parti communiste, arrive devant. Ils obtiennent 28 sièges contre 25 au centre-gauche. Donc là aussi, c'est extrêmement intéressant. Le Parti communiste en particulier se sort très bien de cette élection au niveau des constituants, mais aussi au niveau local. Donc on voit qu'il y a vraiment une poussée à gauche. Et l'autre grande surprise, évidemment, ce sont les indépendants.
Voilà, alors il faut expliquer qui c'est, ces indépendants. Est-ce que c'est, vous rappeliez tout à l'heure le mouvement social de 2019, est-ce que là aussi c'est une victoire de ce mouvement social qui secouait toute la classe politique, y compris cette gauche alternative dont on vient de parler?
Tout à fait. En fait, toutes les forces politiques constituées ont été complètement remises en cause, chamboulées, mais plus que chamboulées, vraiment délégitimées en partie par la grande mobilisation d'octobre 2019 et par les élections, puisque la très grande majorité de ceux et celles qui vont être des constituants à partir dans les prochaines semaines ne sont pas issus de partis politiques et même ont fait campagne contre les partis politiques la plupart du temps, en pointant du doigt les partis politiques comme une partie du problème du Chili. Et les électeurs, les électrices ont suivi très largement ces indépendants. Alors après, c'est extrêmement hétérogène. Il y a la liste du peuple, par exemple. Là, il y a vraiment une grande hétérogénéité de ce qu'on appelle les indépendants dans cette élection.
Alors, on va revenir sur quelques-unes de ces figures pendant tout le reste de l'émission. Un mot avant, parce que c'est important, c'est-à-dire que pendant ces élections pour la Constituante, il y avait aussi des élections locales, hein, municipales, régionales. Est-ce que là, on a observé le même genre de phénomène concernant le rapport de force à l'intérieur des gauches et des phénomènes atypiques qui viennent bousculer la classe politique ?
Alors, de manière assez classique, on voit que quand même au niveau du pouvoir local, du pouvoir territorial, les partis traditionnels résistent mieux. Mais quand même, hein, la droite s'effondre également. La démocratie chrétienne, qui a quasiment disparu de la Constituante, elle reste un grand parti local et territorial avec plusieurs mairies. Mais là aussi, il y a des grandes surprises au niveau local. Des figures montantes qui arrivent à arracher des places fortes de la droite chilienne dans toute la région de Valparaíso, par exemple, dans le sud du pays, à Valdivia, grande ville de Valdivia, qui vient d'être prise par une jeune militante, Carla Atman, du Front Large, par exemple. Ça, c'est une énorme surprise aussi. On voit vraiment des places fortes des partis traditionnels qui ont été chamboulées aussi au niveau local.
Alors, revenons sur plusieurs des figures qui ont été élues la semaine dernière. Au municipal, justement, on reste sur ce terrain-là. Il y a eu une victoire encore plus importante, sans doute, puisque c'est à Santiago, la capitale. C'est Iraci Asler. Comment expliquer que cette communiste, féministe, avec un profil aussi radical, l'emporte quand même dans une aussi grande ville où on imagine qu'il y a quand même des bastions conservateurs?
Oui, symboliquement, là, c'est vraiment, on a une traduction très claire du chamboulement en cours. Donc, Iraci Asler, elle est élue de Santiago Centre, donc la commune de Santiago Centre, de la capitale, mais c'est une des principales sur le plan du poids symbolique, hein, dans le pays. Elle est trentenaire, elle était une militante des jeunesses communistes, très, très mobilisée en 2011 lors du grand mouvement étudiant. Alors, elle est issue plutôt d'une famille aisée, hein, de famille d'entrepreneurs. Elle est métisse, sa mère est brésilienne et son père chilien et suisse. Elle est très diplômée, mais elle a réussi à déplacer vraiment le candidat de la droite dure. Et c'est une vraie surprise et surtout c'est une vraie défaite, hein, cette élection d'Iraci Asler. Symboliquement, c'est vraiment, ça montre le renouveau en cours. Certains la comparent un peu à Camila Vallejo, qui était une des dirigeantes étudiantes de 2011, qui aujourd'hui communiste et qui aujourd'hui est député à la Chambre au Chili.
Alors, on reste sur les élections locales. On va voir s'afficher la figure de Rodrigo Mundaca, qui a gagné, je crois que c'est le gouvernorat à Valparaiso. En quoi est-ce que c'est une figure de la gauche alternative?
Là aussi, quand même, c'est très, très symbolique. Rodrigo Mundaca, c'est un activiste de l'eau, en faveur de l'eau comme bien public, bien commun. Peut-être que certains le connaissent ici en France, puisqu'il a reçu le prix Daniel Mitterrand, hein, pour ses mobilisations. Il était menacé à plusieurs reprises sur le plan judiciaire, y compris sur le plan directement physique. Hein. Et c'est un lutteur, un luchador, comme on dit au Chili, pour l'eau comme bien public, dans une région où l'eau est complètement accaparée. Il y a vraiment le capitalisme des avocats, des avocats, le fruit qu'on exporte massivement depuis le Chili. Et donc là, il y a une bataille qui est menée par Mundaca et son mouvement, le mouvement pour l'eau, depuis des années. Et le voilà maintenant, donc, gouverneur régional. C'est un bon point pour le mouvement écologiste. Et il faudra voir quelle marge de manœuvre il aura pour mettre en place ses promesses de remettre l'eau comme un bien commun au Chili.
Alors, passons maintenant à quelques-uns des élus à cette convention constitutionnelle. Une des nouveautés, alors il y a la parité, hein, homme-femme, assez stricte, mais il y avait aussi 17 sièges, si je ne me trompe pas, qui ont été réservés aux populations dites autochtones. Et à ce titre, il y aura Machi Linconao qui siégera. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette figure et en quoi elle est exemplaire de ces luttes pour la représentation des peuples autochtones?
Alors, il faut rappeler qu'une machi pour le peuple mapuche, c'est une autorité religieuse, ouais, et une autorité finalement politique, hein, pour les communautés autochtones mapuche dans le sud du Chili. Et Francisca Linconao, c'est une figure en fait de la lutte du mouvement mapuche pour l'autodétermination. Elle a affronté à plusieurs reprises l'État chilien. Elle l'a payé très très durement. Il faut rappeler qu'elle était emprisonnée plus de 9 mois et finalement on a pu prouver qu'elle n'était coupable de rien. Elle avait fait une grève de la faim qui avait été mondialement connue. Donc, c'est une figure symbolique de la répression de l'État chilien contre ce mouvement autochtone. Et le fait qu'elle soit aujourd'hui constituante, c'est un espoir vraiment pour toute une partie des mobilisés du mouvement social en général. C'est vraiment une icône, d'une certaine manière. Et elle a été élue, d'ailleurs, avec d'autres figures de ces mobilisations, notamment des plus jeunes, comme Natividad Yanquileo et quelques autres.
Alors, j'évoquais la parité tout à l'heure. Le mouvement féministe est assez puissant au Chili. Quand on a préparé l'émission, vous avez voulu parler d'Alondra Carrillo, qui a justement candidaté, alors elle, en tant qu'indépendante, et sous ce label, là, je regardais ses affiches de campagne, elle se présentait vraiment comme féministe indépendante.
Tout à fait. C'est une des dirigeantes hein, de ce qui est aujourd'hui encore la coordination du 8 mars, donc une des grandes organisations féministes des dernières années, qui, rappelons-le, a mobilisé à certains moments plus de 2 millions de personnes dans la rue au Chili. Et elle a été élue à Santiago, dans une commune populaire et classe moyenne. Et là aussi, elle a fait une campagne très radicale, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est un féminisme très radical, c'est un féminisme aussi global qui traite de l'ensemble des thématiques de société. Et donc, avec elle rentrent finalement toutes les thématiques du féminisme à la Convention constitutionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que globalement, cette élection confirme la montée en puissance des femmes chiliennes au plan politique, à tel point que il y a, du fait de parité, une parité très stricte qui a été instaurée, il a fallu rétrograder, entre guillemets, certaines femmes pour les remplacer par des hommes, ce qui est quand même paradoxal.
Oui, oui, en général, c'est plutôt dans l'autre sens qu'on doit faire ces corrections. Alors, parmi ces indépendants, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y avait une hétérogénéité quand même de ces figures. Évidemment, ils ne sont pas tenus par la même discipline de parti, par le même ancrage historique. Et il y a des figures qui, pour le coup, sont assez éloignées du mouvement social de 2019. On va en présenter deux d'entre elles, de ces figures. Comment est-ce qu'on évalue le poids de ces figures qui sont élus comme indépendants, mais ne partagent pas vraiment les ambitions transformatrices, on va dire, dans un sens plus redistributeur, plus émancipateur.
Ben, c'est une des inconnues, parce que donc, dans cette assemblée constituante, il va avoir besoin d'alliances, de négociations en permanence, et alors qu'il y a vraiment un bloc très fort des indépendants, plus de 48 sièges, on ne sait pas très bien comment ça va se régler tout ça. Il y a une grande partie d'entre eux qui sont issus plutôt de la gauche, plutôt des mouvements sociaux, mais d'autres qui ne le sont pas, qui viennent même parfois d'anciens partis conservateurs qui se sont présentés comme indépendants. Donc c'est là où est l'enjeu. Et d'autre part, quel rapport au parti ? Parce qu'il y a vraiment un discours très fort contre les partis, y compris parfois contre la gauche elle-même, contre le PC, le Front Large, alors que la seule manière de réformer cette constitution, ça sera par des alliances entre justement cette gauche et les indépendants.
Alors, donc, parmi ces figures plus conservatrices, on a l'exemple de Benito Baranda, qui a recueilli beaucoup de voix. Alors lui, quel secteur de la société il représente ?
Alors oui, par exemple, Benito Baranda, il est assez... Il montre bien que tous les indépendants ne sont pas forcément ni de gauche, ni forcément pour un changement radical au Chili. Lui, il vient de famille conservatrice et catholique. Il est connu pour son rôle dans des organismes de charité au Chili, et désormais à la tête d'un organisme international qui s'appelle America Solidaria. Et donc, Baranda, il a été élu sur la liste qui a été dénommée pour une nouvelle constitution, où on trouvait d'anciennes figures issues de partis ou proches de l'ancienne concertation, le centre-gauche, ou de la démocratie chrétienne. Donc là, on voit aussi que l'étiquette indépendant ne fixe pas une position politique. Donc ça va être très fluide au moment de négocier et de édicter cette nouvelle constitution.
Beaucoup plus à droite, on note aussi l'élection de Teresa Marinovic, c'est à Santiago. Qui est-elle ? Elle représente un secteur beaucoup plus dur.
Exactement. Donc là, on a la démonstration aussi du poids croissant d'un secteur de l'extrême droite au Chili, qui, malgré cette explosion sociale et même électorale, a réussi à se consolider. Teresa Marinovic a eu une très bonne élection. Elle a reçu de nombreuses voix et elle incarne l'antiféminisme, même un mépris public, médiatique de ce qui vient du peuple. Aussi une position xénophobe, anti-migrant, et elle a fait sa campagne là-dessus. Et donc, de certaine manière, avec elle, c'est une extrême droite vraiment qui s'assume en tant que telle, qui rentre aussi à la constituante et qui est une ennemie jurée du mouvement féministe et des migrants.
Alors, on va voir comment les travaux vont se passer de cette convention. Mais il se trouve que cette année, il y a l'élection présidentielle au Chili. Alors, comment elle se dessine? Est-ce que les résultats là, de la constituante risquent de bousculer un peu la façon dont les différents partis anticipaient ce moment électoral?
Alors, je pense qu'il y a déjà un élément qu'il faut souligner de cette élection locale et constitutionnelle, c'est le taux d'abstention qui est très très fort. Je veux rappeler que 60% d'abstention dans cette élection, qui était pourtant présentée et qui est historique. Malgré tout, seulement 40% des électeurs se sont déplacés pour aller voter. Alors il y a un facteur pandémie, mais qui n'explique pas tout. On est depuis des années avec une abstention croissante dans le pays et il y a une défiance très très forte envers les élections générales, envers les partis. Donc c'est quand même un élément à prendre en compte pour envisager ce qui arrive très très vite, les élections parlementaires et présidentielles novembre-décembre de cette année. Un secteur se réjouit évidemment de cette élection qui vient juste de passer, c'est le Parti communiste, qui a un candidat tout à fait solide, Daniel Jadue, qui vient d'être réélu avec plus de 60% des voix dans sa commune, Recoleta, et qui est vraiment la carte présidentielle désormais pas seulement du PC, de tout un secteur de la gauche, qu'il voit en lui vraiment l'espoir d'avoir une nouvelle figure issue de la gauche communiste qui pourrait vraiment être tout à fait crédible au moment des élections présidentielles.
Ouais, c'est y a un renversement, parce que le PC pouvait être considéré comme une organisation un peu ringarde il y a quelques années, et là, effectivement, elle pourrait pouvoir rassembler toute la gauche, quoi.
Oui, c'est vraiment un retournement de situation de ce point de vue. Le fait qu'il y ait une nouvelle mairesse à Santiago communiste, qu'on ait un candidat qui est vraiment très très haut dans les sondages pour la gauche, en tout cas si on parle des présidentielles, c'est un élément très fort de cette situation, avec par contre des tensions aussi énormes avec le Parti socialiste, l'ex-concertation. Il y a d'avoir rupture d'ailleurs, il y avait un projet de primaire entre ces forces-là, le Front Large, le PC, le PS. Le PS a rompu et il n'y aura pas de primaire finalement, donc il y aura sûrement plusieurs candidatures de ce côté-là. Et en face, une droite qui vient vraiment qui est face à une débâcle complète et qui se pose de nombreuses questions. Elle a toujours une carte à jouer, c'est Joaquín Lavín, qui est assez fort dans les sondages, qui est un ancien ministre de Piñera, le président actuel. Mais est-ce qu'il va pas avoir par contre-coup lui aussi un effet sur ses candidatures? C'est ça qu'il faudra voir. Mais plus globalement, je pense que l'année qui vient va être très très agitée. Et si on bouge la focale, on regarde ce qui se passe dans la société, de nombreux mouvements appellent à se mobiliser, à mettre sous pression même l'Assemblée constituante pour continuer à avancer des mesures sociales, écologiques, de remise en cause de tout l'héritage finalement néolibéral de la dictature.
Alors, une dernière question, parce que je sais que vous travaillez pas seulement sur le Chili, mais sur le continent, en tout cas le sous-continent tout entier, sur les dynamiques politiques en Amérique latine. Est-ce que ce qu'on vit là au Chili n'est pas exemplaire de ces dynamiques un peu contradictoires? Parce qu'il y a quelques années, on s'était déjà rencontrés d'ailleurs dans ces studios pour parler de cette hypothèse d'une fin de cycle, un cycle de gauche qui se serait épuisé au bout de 10-15 années. Là, on voit au Chili, c'est cette victoire, cette postérité du mouvement social de 2019. Ils n'ont pas tous très bien fini, les mouvements sociaux de cette année-là. On voit en Colombie un mouvement social inédit qui est en train de se développer là, ces jours-ci. Est-ce que ça ne montre pas que les sociétés sont justement tiraillées et qu'on n'a pas affaire à juste un retour de balancier vers la droite, quoi, que c'est beaucoup plus compliqué que ça?
Oui, tout à fait. Je crois qu'on est vraiment dans un moment de turbulences sociales et politiques. Il faut rappeler que l'Amérique latine vit de plus sa plus grande crise économique depuis les années 30 dans le contexte de la pandémie. Donc les sociétés sont vraiment bouleversées et très affectées, les inégalités explosent et les tensions sociales explosent. Et donc on voit des phénomènes de polarisation, d'explosion sociale, comme en Colombie ces derniers jours, mais en même temps d'autoritarisme, un État de plus en plus autoritaire. On le voit au Salvador, au Pérou, rappelons au Chili, peut-être quand même, il faut le rappeler pour les auditeurs et les spectateurs de Mediapart, que le niveau de répression qu'il y a eu au Chili également, c'est très très fort. Plus de 35 morts pendant la révolte d'octobre 2019, il y a encore des centaines de personnes qui sont en prison, qui sont considérées comme des prisonniers politiques de la révolte sociale. Donc voilà, on se trouve dans une Amérique latine en turbulence entre un État répressif parfois, très fort, et en même temps des explosions sociales dans un contexte de crise économique et sanitaire.
Très bien, je vous remercie beaucoup Franck Godichaud pour nous avoir éclairé sur ces récents scrutins au Chili. On va suivre ça de près sur Mediapart. Merci à vous.